Chers amis de l'écologie, des baleines, des enfants, de la terre et de l'eau, et de l'émission Un pas de côté sur Graphite 94.9, bonjour. Vous écoutez avec passion, j'espère, la chronique hebdomadaire d'Un pas de côté, consacrée à l'écologie dans son sens le plus large. Voici aujourd'hui le retour de l'émission mensuelle qui va vous permettre de découvrir, un peu plus longuement, un invité. Il s'agit en l'occurrence d'une invitée, à qui je vais laisser le soin tout d'abord de se présenter.
Bonjour, je m'appelle Ariane Noto, j'habite Tracy-le-Mont, près de Compiègne, et je suis animatrice sociale, socioculturelle ou environnement, selon les postes.
Donc on se rencontre entre animateurs, alors. Moi, ce serait plutôt animateur radio. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots ton parcours depuis ta plus tendre enfance jusqu'à les études que tu as menées? Je parle surtout des études, bien sûr.
En termes d'études, je ne savais pas trop où j'allais, donc j'ai beaucoup réfléchi et je me suis orientée vers l'animation. J'ai fait un DUT carrière sociale, option animation sociale, socioculturelle, et où il y avait des stages où j'ai pu voir un peu ce qu'était concrètement le métier. Et puis après, j'ai fait une licence professionnelle dans la coordination de projets, encore dans le social, dans l'intervention sociale.
Alors, en fait, le social, c'est un des fameux piliers du développement durable. Mais tu pourrais me dire quel rapport ça a avec l'écologie? Pour toi, je parle en particulier.
Je pense que le social est un pilier de l'écologie, justement, parce que l'écologie, ça passe par des gens. Ça passe par des actions, des pratiques, des idées et des valeurs. C'est pas juste un modèle économique ou un modèle d'action. Enfin, ça passe par des gens. Et du coup, pour moi, le social est important dans ce domaine.
Tu as un parcours un peu original, mais enfin, comme beaucoup de jeunes maintenant qui sont obligés de suivre différentes pistes pour trouver un emploi. Mais moi, j'ai pu constater que tu avais une connaissance, disons, de l'écologie à la fois pratique et théorique. Mais est-ce que tu peux me dire si c'est un rapport avec ton enfance, avec tes parents ou tes grands-parents? Comment est-ce que tu as été amené à prendre connaissance ou même pratiquer l'écologie, parce que ça se pratique au jour le jour?
Ça, c'est une question que je me pose justement, si ça vient de ma famille ou si c'est plutôt moi. Je me suis déjà pas mal posé la question, j'ai toujours pas la réponse. Je sais que dans ma famille, avec un peu de recul, je vois bien que, par exemple, ma mère est pas mal dans l'écologie. Quand j'étais petite, il y avait des produits bio à la maison, même si j'aimais pas ça, ou le recyclage, le jardin. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui était sous-jacent, en fait, à mon enfance, même déjà d'habiter à la campagne, d'avoir un jardin, d'aller faire des balades en forêt, je sais pas, on est proche de la nature et je pense que c'est sous-jacent, oui.
Oui, c'est quand même un contexte qui était plutôt favorable.
Oui.
Et c'est amusant parce que moi, je connais un peu ton papa qui est aussi un bricoleur infernal et qui est capable de réparer des... Ben, c'est un des vecteurs. On parlait à l'occasion d'une chronique, on a parlé justement de la réutilisation ou de prolonger la durée de vie des objets. J'ai l'impression que ton père, il est quand même dans ce domaine-là, c'est quand même un expert, non?
Oui, un petit peu, oui. Et justement, ça va dans l'idée de rien... Enfin, on n'a jamais rien jeté, à chaque fois, y réparer ou alors... Enfin, moi, le recyclage, c'était lui. Enfin, dès que j'avais un objet, je ne savais plus quoi en faire. Ben, ça va dans son bureau et ça servira pour faire autre chose, réparer un autre truc. Enfin...
Alors, tu vois, moi, j'ai la réponse à la question que je t'ai posée, parce qu'en fait, c'est quand même une influence familiale qui a orienté un petit peu tes prises de position.
Oui, je pense. Même si maintenant, sur certains sujets, je suis quand même un peu plus, pas sensibilisée, mais je vais un peu plus loin qu'eux. En termes de gâchis alimentaire ou des choses comme ça, je vois que là, nos opinions divergent quand même.
Ouais, tu sais que je crois que c'était Isaac Newton qui disait que nous sommes juchés sur l'épaule des géants. Donc en fait, il voulait dire qu'en fait, on franchit toujours un échelon supplémentaire par rapport à ceux qui nous ont précédés. Et à ce titre, j'ai remarqué que tu étais végétarienne. Ce que ne sont pas tes parents, si j'ai bien compris.
Pas du tout, oui. Bah ça, c'était aussi au début une divergence, parce que pour eux, c'était embêtant, c'était compliqué, parce que quand ils faisaient à manger, quand ma mère faisait à manger, il fallait réfléchir, parce qu'on a des plats assez typiques, où voilà, purée saucisse, boudin, je ne sais pas quoi, et du coup, là, il faut réfléchir, qu'est-ce que Lauriane va manger. Alors, du coup, c'était... C'est pas encore... C'est accepté, c'est sûr, mais c'est encore un peu... Je sais pas comment dire.
Et cet accident familial, t'es arrivé à quel âge?
Ah, je sais plus. C'était peut-être, je sais pas, après un chantier jeune. Je sais plus. C'est peut-être 4 ans, quelque chose comme ça.
Il faut dire que tu nous as pas dit ton âge.
J'ai 23 ans.
Ah voilà, donc c'était il y a déjà très longtemps.
Très longtemps.
Est-ce que... J'aime bien me poser cette question aux gens qui sont végétariens. Moi, j'ai une tendance à être... Moi, je crois, comment on appelle ça, flexo-végétarien. C'est-à-dire, j'aime bien manger des légumes, mais il m'arrive de temps en temps de manger de la viande. Est-ce que tu as déjà envisagé d'aller plus loin? Par exemple, il y a des gens qui sont végétaliens. C'est-à-dire qu'ils ne mangent pas du tout de produits d'origine animale.
J'ai déjà envisagé, mais ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est que je suis pas une vraie végétarienne. Moi, j'appelle ça demi. Je sais qu'il y a un mot vraiment... je sais plus, ovo, végétarien, je sais plus comment ils disent, mais moi je suis demi, je mange pas de viande, mais je mange un peu de poisson. Même si maintenant j'essaye de diminuer, je mange quand même du poisson, donc je suis pas une vraie végétarienne. Donc s'il y a des végétariens qui entendent ça, mais végétalien, non, c'est pas quelque chose qui me...
Mais quelle est ta motivation au départ pour être végétarienne ?
Justement, c'est ça qui fait que je ne suis pas végétalienne, c'est que moi, ce que je rejette, c'est la souffrance animale, le fait qu'on prenne les animaux pour des objets de consommation. On oublie que derrière, ce sont des êtres vivants qui peuvent ressentir la douleur ou même des émotions. Et c'est ça que je rejette, le fait que les gens achètent et mangent des choses. Pour eux, c'est des choses, justement, c'est même plus un animal, il n'y a plus de vie derrière. Et c'est ça qui m'embête. Alors que manger, ça ne me dérange pas de manger un œuf si je sais d'où il vient. C'est le voisin d'à côté qui... Je vois les poules tous les jours ou c'est du lait encore, même si j'en bois pas, c'est vrai. Mais je tends à diminuer les produits laitiers, mais non, je ne me vois pas être végétalien. Le fromage, par exemple.
Non, mais ta première démarche, c'est quand même le souci de la cause animale.
Oui, c'est ça.
De la souffrance animale.
Oui.
Est-ce que tu as déjà participé à des... Est-ce que tu es déjà allé au-delà de cette attitude végétarienne pour participer à des manifestations ou des... concernant la souffrance animale?
Non, je ne crois pas. Non.
En fait, pour l'instant, c'est surtout une prise de position qui passe par l'alimentation.
Oui, c'est un choix vraiment personnel. Je ne tends pas, par rapport à mes proches, à les obliger à faire comme moi. Au contraire, moi, c'est vraiment un choix personnel. Et qui permet d'ouvrir des discussions aussi quand je suis dans certains collectifs où pour eux c'est bizarre, des gens qui mangent pas de viande. Et bah, du coup, en incarnant ça, juste expliquer sans essayer de convaincre, je pense que ça peut ouvrir des possibles à certains.
Alors tu me tends le bâton, plutôt tu me permets de faire sauter sur l'occasion de parler à propos de collectif. Je crois que tu connais des gens qui, eux, auraient plutôt un mode de consommation, je crois que pour être un peu snob, je dirais frigane.
Frigane, oui.
Est-ce que tu peux nous détailler un peu l'attitude des friganes?
Frigane, c'est manger tout ce qui est gratuit, donc tout ce qui est issu de déchets ou ce qu'on trouve dans les poubelles, par exemple. Ou en fin de marché, ce qui est dédié, du moins, à être jeté.
Oui, c'est pas forcément sale ou pourri.
Ah non, pas du tout.
Parce qu'on imagine...
Oui, on imagine ça.
Il y a bien des gens, quand on leur parle de manger des rebuts, qui voient ça de façon un peu dégoûtante.
Oui, même moi, la première, avant de vraiment faire mes premiers... d'aller voir dans les poubelles moi-même, je pensais que j'allais trouver que des choses pourries, dégoûtantes, etc. Alors que finalement, quand on y va, on trouve des choses bien, justement, qui sont bien belles, propres, enfin juste bien consommées. Donc c'est ça qui fait le plus mal au cœur, quoi, je trouve.
Est-ce que les gens, quand tu en parles autour de toi, des gens qui sont pas vraiment branchés dans ces domaines-là, ça les rebute, ça les dégoûte, ça les surprend?
Ça dépend... Non, j'ai pas eu encore trop de réactions. Ouais, souvent, il y a quand même un peu attention, ne pas être malade, si c'est périmé, la date de péremption, ça l'est passé, et puis en plus, si ça vient d'une poubelle. Enfin, oui, je pense qu'il y a quand même des appréhensions, mais on me les dit pas trop.
J'aimerais revenir sur ton parcours, parce que là, on parle un peu de... Je ne dis pas que ce ne sont pas des détails, mais c'est une attitude personnelle. Dans les stages que tu as faits, ou les emplois que tu occupais, je crois qu'à un moment, tu t'es occupé de handicapés.
Oui. J'ai fait une année d'alternance pour ma licence professionnelle. Et donc, j'ai travaillé dans des GEM, des groupes d'entraide mutuelle, qui étaient dédiés à l'accueil de personnes traumatisées crâniennes. Donc, à la suite d'un accident qui cause un choc sur la tête, ou même un AVC. Et donc, c'était des personnes qui avaient des difficultés très diverses. Même des fois, on appelle ça le handicap invisible parce que, quand on rencontre la personne, ça ne se voit pas du tout. Mais après, on peut se rendre compte qu'elle a des problèmes d'orientation, de mémoire, de comportement aussi, au niveau des les codes sociaux, d'oublier de désinhibition, de faire des choses qui normalement ne se font pas. Donc c'est là où on se rend compte que ce sont des personnes voilà, qui auraient un handicap. Et donc j'ai travaillé dans une association qui parrainait 6 structures en Île-de-France. Et l'idée était de faire que, au sein de l'association, les personnes handicapées n'étaient pas des usagers ou des personnes accueillies, comme on peut le voir, dans d'autres structures médicalisées, mais des adhérents, donc qui prennent part au projet associatif et qui proposent des choses, qui proposent des sorties, qui même proposent des activités et sont animateurs
Ils étaient actifs.
Oui, actifs, acteurs. Et nous, en tant qu'animateurs, c'était accompagner, quoi. Vraiment être une présence qui va accompagner le projet, mais pas faire à la place de la personne.
Alors, il y a quelque chose qui m'avait un petit peu, je ne dis pas surpris parce que je te connais un petit peu, mais qui était quand même un tout petit peu quand même interpellant, si j'ose dire, c'est que, en fait, pour quelqu'un de jeune comme toi, un public qui, a priori, n'était pas forcément très facile à gérer, à accompagner, j'ai l'impression que tu avais vraiment beaucoup de plaisir à le faire et peu de difficultés.
Ben oui, parce qu'en fait, c'est des êtres humains, tout simplement, et même que ce soit une différence d'âge ou une différence de culture ou de comportement ou autre, en fait, on se rend compte que ça n'a pas vraiment d'importance. Moi, justement, j'aime bien les publics comme ça, plus âgés, parce que là, il y avait même des gens qui me disaient « Ah, tu pourrais être ma fille !» ou des choses comme ça, et j'aime bien ces personnes-là qui ont un vécu, une expérience, des choses à raconter. Je trouve ça intéressant et ça fait oublier un peu cette barrière de l'âge ou autre du handicap.
Alors, Lauriane est pour la suppression des barrières, c'est bien. La suite du parcours de Lauriane dans quelques instants sur Graphite 94.9 après une première pause musicale. We'll be right back. De retour sur Graphite 94.9 avec l'émission Un Pas de Côté et Lauriane, notre invitée. Lauriane, dans ton parcours, tu nous as parlé de ton rôle auprès des handicapés. Je crois même que, on n'a pas le temps de parler de tout, mais je crois même que tu avais rédigé un bulletin. Tu t'es fait rédactrice d'un bulletin de liaison, c'est ça?
Oui, enfin j'étais rédactrice, responsable de rédaction, et c'est ça je crois dans les termes, d'un journal pour les 6 structures. Enfin, je coordonnais le journal pour que les 6 structures qui étaient en Île-de-France, à Versailles, à Saint-Denis ou dans Paris même, puissent communiquer et créer du lien entre elles. C'était ça l'idée.
Tu es restée donc un an ?
Oui, c'était une année.
Ah bien. Et ensuite, on va se rapprocher un peu du domaine, on va dire, de l'écologie de terrain, en tant qu'environnemental. Tu as fait un stage, un séjour à Terre Vivante.
Ah oui.
C'est du côté de...
De Mince, en Isère.
Dans l'Isère, pas loin de Grenoble.
À une heure en dessous de Grenoble, oui.
Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce séjour-là ? Je te laisse, c'est toi qui raconte. Qu'est-ce qui se passe à Terre Vivante ?
En fait, c'était un stage... C'était mes premiers pas dans le domaine de l'animation nature, vu que j'étais ma formation universitaire, c'était animation sociale, donc ça n'avait rien à voir. Et du coup, là-bas, j'ai été un peu immergée dans ce domaine-là, auquel je connaissais juste au niveau pratique et au niveau sensibilité, mais là, il fallait faire des animations avec des connaissances particulières, etc. Donc, Terre Vivante, c'est un centre écologique qui je sais plus, ça fait pas mal d'années maintenant, qui date des années 90, je crois, et qui a d'abord commencé en éditant une revue, les quatre saisons du jardin bio.
Qui existe toujours.
Oui, qui existe toujours. Et donc le but de cette revue, c'est de montrer l'écologie pratique. Donc ne pas juste dire ce qui est bien pour faire du jardinage biologique, de parler des fleurs et des plantes. Non, l'idée c'était de dire on va faire un jardin pour montrer ce qu'on dit dans nos livres. Parce qu'ils éditent un magazine, mais aussi ils ont une maison d'édition, avec ils éditent une vingtaine d'ouvrages par an, donc sur les thématiques écologiques. Et l'idée donc c'était de créer un centre pour montrer, en fait. C'est vraiment comme ça qu'ils disent, montrer ce dont ils parlaient.
Alors, en fait, il y a des visiteurs.
Oui.
Parce qu'en fait, il y a toute la partie rédactionnelle et des éditions, mais en plus, un rôle d'accueil sur place.
Voilà, c'est ça. Et c'était là aussi mon rôle. Donc, il y a les livres, mais aussi les gens qui peuvent faire des visites. Et ils accueillent aussi des groupes, donc des groupes d'adultes, de personnes diverses et surtout de scolaires. Donc, ils peuvent venir passer une journée à faire du jardinage, à observer les petites bêtes de la mare, aussi des ateliers sur les 5 sens au jardin. Enfin, ça, c'est assez diversifié. Et l'idée, c'est de sensibiliser à l'écologie, de faire vivre l'écologie aux enfants.
C'est le public qui est principalement constitué d'enfants ?
Je ne m'en rappelle plus, oui. En termes de visite, oui, c'est plus des scolaires. Et après, il y a quand même beaucoup d'individuels. Enfin, il y a des créneaux plus spécifiques pour des visites d'individuels ou de groupes. Mais je crois que c'est plus des enfants quand même.
Il y a une activité sur place réellement de jardinage ? C'est-à-dire qu'on cultive et on produit des légumes ou c'est uniquement une activité démonstrative ?
Non, il y a une activité pratique. Donc, ils cultivent leurs légumes, leurs fleurs. Il y a plusieurs jardins thématiques. Mais le but n'est pas vraiment de... produire pour les manger, c'est plutôt les produits... Enfin, après, ils les mangent, bien sûr. Mais le but, c'est de montrer et de faire des expérimentations aussi. Quand j'étais en stage à l'époque, ils faisaient justement une expérimentation sur les salades. Ils avaient planté pas mal de variétés de salades, dont certaines, je ne connaissais pas du tout. Il y avait la belle blonde. Et du coup, à la fin, il les goûtait, en fait. Et après, il faisait tout un tableau en disant lesquels avaient mieux poussé, le goût, au niveau de est-ce qu'il y avait une amertume. Enfin, ils sont... Voilà, c'est, comme il dit, c'est l'écologie pratique. Essayer de tester et d'expérimenter ce qui est dit dans les livres.
Alors, autre lieu peut-être plus récent, mais peut-être aussi plus connu du fait de la notoriété de son créateur, enfin de ses créateurs, puisqu'ils furent plusieurs, il y a les Amanas. C'est-à-dire, enfin, là aussi, tu peux présenter, peut-être que c'est un des piliers de ce qu'a pu fonder Pierre Rabhi, co-fonder Pierre Rabhi dans son parcours écologique et d'agriculteur. Donc là, tu es resté aussi, tu étais employé aux Amanas.
Non, j'étais volontaire, j'étais en service civique. Et donc oui, j'ai passé, c'était l'année dernière, j'ai passé 5 mois là-bas. Et donc en tant qu'animatrice nature. Et donc les Amanins, c'est un centre agroécologique où là, il y a une volonté cette fois-ci, c'est du maraîchage, quoi. Ils produisent vraiment, vu que l'idée de la production, c'est être autonome au niveau alimentaire.
C'est une des grosses différences avec Terre Vivante.
Oui, oui. Et puis après, ils n'éditent pas, il n'y a pas de magazine ou de livre. Eux, c'est plutôt un centre d'accueil où le but, c'est d'être une vitrine pour montrer que c'est possible. Donc, ils ont un jardin qui fait, je ne sais plus quoi, j'ai oublié le nombre d'hectares. Enfin, ils ont une grande partie de maraîchage. Et ils ont aussi un élevage avec 3 vaches, un troupeau de brebis, une trentaine environ, des poules et quelques cochons. Et grâce donc, à leurs légumes et à cet élevage, ils essayent d'être autonomes alimentairement. Donc sur ce centre, il y a aussi une partie d'accueil qui est importante, où là, ils accueillent des groupes qui font des stages divers et variés.
Oui, c'est ça, c'est une des différences avec Terre Vivante encore, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des stages, mais qui peuvent porter sur d'autres domaines que purement la culture ou l'agriculture.
Oui, parce que Terre Vivante fait des stages vraiment qui sont faits par des prestataires ou des gens de Terre Vivante sur des thématiques du jardin, enfin en lien avec la nature et l'écologie, contrairement aux Amanins qui fait aussi ces stages, mais peut accueillir des groupes de yoga, des groupes de... autre qui a plus ou moins à voir avec l'écologie, en fait.
Et qui découvriront sur place un lieu de vie qui respecte le plus possible la nature. Je crois que les bâtiments aussi, il y a le mode de construction des bâtiments, de chauffage, tout ça, c'est imprégné de techniques environnementales.
Oui, comme les Amanins, comme Terre Vivante, ils ont fait des bâtiments en éco-construction, donc ils sont bioclimatiques, c'est-à-dire qu'ils sont... En relation avec leur environnement pour consommer moins d'énergie et être le plus économe possible.
L'utilisation des matériaux aussi, je crois.
Oui, et les matériaux qui sont le plus souvent issus le plus localement possible. Et en terre, paille.
En fait, dans ces deux lieux, finalement, ces deux lieux représentent une espèce de vitrine ou des vitrines d'une écologie pratique.
Oui, c'est ça.
Avec des aspects un peu différents dans les deux cas. Mm. Et en fait, qu'est-ce que tu retiens de plus ? Tu as fait de l'animation aussi, donc ?
Oui, aux Amanins, j'étais vraiment animatrice, contrairement à Terre Vivante, où là, c'était plus la découverte. Donc, j'ai beaucoup suivi les animateurs.
Tu as appris plus
oui,
que...
j'ai beaucoup appris là-bas. C'était vraiment l'idée du stage. Et, alors qu'aux Amanins, j'étais vraiment animatrice en tant que telle. J'ai accueilli les classes de découverte à la semaine. Enfin, il y en avait toutes les semaines, de mars à juin, et après l'accueil aussi des familles, donc c'était intéressant, ça changeait, et donc faire des ateliers pratiques, où on a fait des ateliers sur le pain, sur les animaux, sur les petites bêtes de la mare, et surtout sur le jardin, qui était ma spécialité.
Tu vas devenir une jardinière, les gens que tu as rencontrés, les enfants ou les adultes, en général t'ont semblé être des gens qui étaient déjà préparé à ce genre de culture, on va dire, pas de culture dans le sens le plus général possible, parce que c'est des gens qui venaient aux Amanins en toute connaissance de cause, ou bien est-ce que c'était des gens à qui il arrivait généralement de découvrir complètement la nature, l'environnement, c'est une moyenne bien sûr, parce qu'il y a des cas très différents.
En ce qui concerne les familles que j'ai pu voir dans les séjours d'été, non, c'était souvent des gens qui étaient déjà bien...
Ils sont convaincus.
Oui, bien convaincus, c'est ce que j'allais dire, qui étaient bien dans cette dynamique. Contrairement aux classes découvertes, où là, c'était intéressant parce que c'était des enfants qui, pour certains, venaient de banlieue ou même de campagne, mais qui se fichaient un peu de la nature, quoi, et qui ne voulaient pas s'asseoir par terre parce que c'était sale.
Pour eux, le lait, c'était la brique de lait.
Oui, ou les animaux, voir une vache en vrai, aller faire du fromage, parce qu'on faisait aussi des ateliers fromage. Là, c'était vraiment de la découverte et... Enfin, pour les familles aussi, mais pour certains, c'était vraiment... quand ils arrivaient, même au niveau de la nourriture, parce que bien sûr, là-bas, on mangeait le plus possible ce qui était produit, et c'était bio. Et il ne fallait pas trop leur dire au début, en fait, que c'était bio. Parce que sinon,
ils avaient peur du bio.
Ça les bloquait complètement. J'en veux pas, c'est bio. C'était une idée préconçue, voilà. C'était intéressant, c'était marrant.
Est-ce que c'était végétarien ?
Non, il y avait pas beaucoup de viande parce que du coup c'est la viande avec les cochons qui sont, ouais. On en a pas beaucoup. Mais non, l'idée c'était de faire une fois par semaine de la viande. Et les enfants bloqués là-dessus aussi, ils disaient on mange pas de viande. Et au début, ils voulaient pas manger. Et au bout de 2-3 jours après, ils aimaient beaucoup cette nourriture-là. Ça.
Ouais, ouais, quand nos auditeurs qui nous écoutent, s'ils sont bien français, ils comprendront qu'on attache souvent beaucoup d'importance à la nourriture. Ouais. Une deuxième petite pause sur Graphite 94.9 avant de retrouver notre invité. Thank you. Après cette pause musicale, de retour avec Lauriane qui nous narre ses différentes aventures successivement dans les centres Terre Vivante, dans l'Isère, et puis les Amanins, au fait, c'est dans quel département ?
Oui, je l'ai pas dit, c'est dans la Drôme.
Ah, dans la Drôme. Ah, le premier département en surface de culture biologique, c'est pas tout à fait étonnant que les Amanins soient créés dans la Drôme. Tu as eu l'occasion de voir d'autres sites dans la Drôme ? D'autres lieux ?
Non, je crois pas. J'avais entendu beaucoup parler du Vialodon, mais j'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais non.
Alors, j'aimerais bien que tu nous racontes une autre de tes aventures qui m'a bien amusé quand tu m'en as parlé. C'est une courte aventure, mais qui est aussi riche d'enseignements, c'est celle des vendanges.
Ah, les vendanges.
Deux lieux de vendanges diffèrent, très différents l'un de l'autre, si j'ai bien compris.
Oui, cette année, c'était assez intéressant pour ça. C'est la deuxième année que j'ai fait, je faisais les vendanges. Et j'ai commencé par un tout petit contrat, c'était 4 jours et demi dans un domaine en biologique où la personne était, l'exploitant était un patron passionné, il parlait presque de biodynamie, enfin quand il
un extrémiste quoi,
on peut dire ça, ouais,
un radical.
Enfin il m'a appris plein de choses sur le vin, enfin il m'a un peu donné la passion du vin. On allait voir le cuvage et quand on prenait la densité, c'est le niveau de sucre par rapport à la fermentation. On voyait ses yeux pétiller quand ça marchait bien. Enfin, c'était vraiment chouette. Et bon, bah voilà, ça s'est terminé et du coup, je voulais quand même travailler encore. Donc j'ai cherché, et j'ai pas cherché bien loin. J'étais à 200 mètres plus haut. Il y avait un autre domaine. Et donc j'y suis allée. Ils m'ont dit oui, on peut t'embaucher. Et cette fois-ci, il faisait pas le premier hectare, je l'ai pas dit, mais il faisait 4 hectares et demi.
Le premier viticulteur.
Oui, viticulteur pour qui j'ai travaillé. Et le second,
quelle surface ?
4 hectares et demi.
Oui, c'est pas très.
Oui, c'est pas très grand.
Et le second ?
Et le second, c'était 20 hectares. Mmh. Et là, c'était pas du tout la même chose parce que du coup, c'est rien qu'en termes, le cuvage était énorme. Il nous a fait visiter, ça a été des énormes machines. C'était même pas l'exploitant qui faisait les calculs de densité, tout ce qui est autour du cuvage, c'est pas lui qui faisait, c'était d'autres personnes.
Attends, tu peux nous préciser qu'est-ce que c'est que le cuvage ?
Le cuvage, c'est là où sont stockés les jus de presse, le vin qui est mis en fermentation, le raisin qui est mis en fermentation et qui va donner du vin.
C'est là où le vin va maturer pendant un certain temps.
Enfin,
va se transformer, le jus de raisin va se transformer en vin.
C'est là où on presse. Voilà.
L'alchimie se produit.
Et du coup, c'était drôle parce que lui, il m'avait dit qu'il traitait, c'était 7 fois, je crois. Il avait traité 7 fois ses vignes durant l'année. Et puis, j'ai essayé de lui parler un petit peu des produits, tout ça. Et du coup, ce qui était drôle, c'était le rapport entre ces deux viticulteurs. Où le premier disait, oh là là, là-bas, ouais, ils font tout en gros, machin, il n'y a pas de passion dans ce qu'ils font. Et le deuxième disait, ah, le petit d'en bas, là, lui, je suis sûr, ça ne va pas marcher, son vin, s'il ne met pas de sulfite, tout ça pour conserver, s'il fait du vin naturel, ça va pas être bon. Et moi, j'ai vu les deux, et j'ai vu que les deux fonctionnaient, mais à leur façon, quoi. Mais...
J'ai l'impression quand même que tu as gardé un meilleur souvenir du premier que du second.
Ben, oui et non. En fait, moi, j'ai bien aimé les deux parce que c'était drôle de comparer. Après, en termes de pratique, et oui, le premier, parce que j'ai appris plein de choses. Il m'a fait rencontrer d'autres viticulteurs qui étaient en bio et qui m'ont... Enfin, j'étais passionnée, moi, de visiter tout ça. Alors que le deuxième, oui, c'était plus du travail, vraiment. Les rangs étaient gigantesques. On était une équipe deux fois plus grande. On était une trentaine.
L'ambiance n'était pas la même.
Oui, et puis il y avait beaucoup de personnes qui venaient à la journée aussi. Donc on ne dormait pas tous sur place, il y en avait qui s'en allaient. Donc ce n'est pas du tout non, la même ambiance, pas le même collectif.
Et alors dans le cas du premier, c'est toujours intéressant de... Qu'est-ce qu'il utilisait comme produit ? Parce que malheureusement, il est très difficile dans viticulture d'éviter d'utiliser des produits. S'il était en bio, il devait être très, très limité. Peut-être la fameuse bouillie bordelaise, sulfate de cuivre,
oui, voilà.
Le soufre.
C'est les deux, trois choses dont je me rappelle. Après, je ne pense pas qu'il puisse mettre autre chose.
Non, après, c'est les pratiques culturelles. Par exemple, désherber éventuellement avec une charrue ou un retour dans le sol et pas mettre de produits, quelque chose comme ça.
Mais il mettait vraiment presque rien. Je ne sais plus, il avait dû faire un ou deux traitements de soufre, quelque chose comme ça, mais c'était pas... Non.
Du point de vue rentabilité, il n'est pas évident que le premier soit moins bon que le second, parce que les produits coûtent très cher. Ne serait-ce que sur ce plan-là, il peut être gagnant.
Ouais, de toute façon, le premier et le deuxième, pour comparer, le deuxième, c'était vraiment une entreprise. Au niveau des machines, ouais. Il avait des machines, je ne sais plus le prix, mais pour moi, ça me semblait énorme pour le pressoir, tout ça, alors que le premier, il faisait plus de façon artisanale à la main, quoi. Donc, c'est pas la même surface non plus, et puis c'est pas la même volonté. Le premier, il voulait vraiment faire un vin, comme il disait, un vin naturel, un vin qui... Il mettait beaucoup de passion dans ce qu'il faisait. Il cherchait vraiment à faire connaître son vin pour son vin, alors que le second vendait son vin au plus gros négociant de la région. Et après, donc, quand c'est comme ça, les vins, ils sont mélangés entre eux pour donner un goût assez standard.
Et oui, il ne peut pas y avoir de qualité particulière.
Non, c'est le but, c'est ça, c'est que le goût soit homogène et que chaque année, ça soit à peu près le même goût pour que les consommateurs s'y retrouvent. Et du coup, on ne peut pas savoir d'où vient le vin. Enfin,
on voit que Lauriane a presque une vocation d'œnologue. On sent que maintenant, sans avoir le goût du vin, elle en a un peu la passion. C'est très bien, surtout qu'il paraît qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont devenues des spécialistes du vin. Donc, c'est très bien, c'est même mieux que la parité. Je voudrais continuer dans cette histoire de mode de vie, parce qu'en fait, tu compares et tu oscilles forcément, comme beaucoup de monde, beaucoup de gens, entre un mode de vie, on va dire, traditionnel, classique, celui qui est un peu issu des Trente Glorieuses, et puis un mode de vie beaucoup plus alternatif, où dans tes fréquentations, tu vois des gens qui sont beaucoup plus orientés sur... Tout à l'heure, on parlait des friganes. Est-ce que tu as d'autres désirs ou d'autres tendances pour toi dans ce mode de vie alternatif? Est-ce qu'il y a d'autres domaines que tu n'as pas encore abordés, que tu aimerais aborder? Ou tu les prends comme ça vient?
Non, comme ça, il y en a certainement, mais comme ça, je ne vois pas, à part l'alimentation, le
tu travail. N'as pas de voiture?
Non, je n'ai pas de voiture.
Est-ce que tu veux en avoir une?
Non. Mais pour moi, voilà, c'est une question compliquée, parce que pour moi, ne pas avoir de voiture, c'est naturel chez moi, donc c'est difficile de décrire ça comme quelque chose d'alternatif, parce que pour moi c'est moi, donc c'est pas alternatif. Et non, je veux pas de voiture tant que ça m'est pas vraiment indispensable, quoi. Depuis que j'ai commencé l'animation, depuis que je travaille, j'ai toujours réussi à faire sans. Et du coup, si je peux continuer comme ça, je réussis à par exemple aux Amanins, pendant les 5 mois, j'ai pas eu de voiture et j'ai covoituré avec mes collègues matin et soir. Et j'ai jamais eu de problème, je n'ai jamais eu de problème de transport, j'ai toujours trouvé, donc je pense que c'est possible.
Alors, je précise à cette occasion que Lauriane, qui est en recherche d'emploi, dispose quand même du permis de conduire, et que si un employeur potentiel nous écoute en ce moment, d'abord il a intérêt quand même à avoir un petit rapport avec l'écologie, et ensuite il peut lui confier une voiture. Je suis témoin, elle ne les démolit pas systématiquement. Alors, j'aime bien aussi poser cette question à des gens qui sont intéressés par tous ces domaines écologiques, qui essayent de les pratiquer au jour le jour. Je pense que, comme tout le monde, tu dois avoir tes petites incohérences, tes contradictions. Alors, qu'est-ce que tu as comme contradiction? Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels tu aimerais travailler? Tu te dis, ah non, ça, c'est pas encore ça, c'est pas bien.
Une de mes grandes contradictions,
voilà, à vous tout.
Je sais que je pourrais faire des efforts, mais j'ai du mal, c'est au niveau de l'eau. J'ai conscience, oui, que je gaspille trop d'eau quand je prends des douches. Je prends des douches
trop longues. Parce que tu te laves quand même.
Oui, je me lave quand même. Ouais.
Et souvent.
Oui, une fois par jour. Certains diraient que c'est beaucoup trop. Et c'est pas faux, mais voilà, ça, c'est une de mes contradictions.
J'ai eu peur parce que tu m'as dit de l'eau, j'ai cru que c'était l'eau que tu buvais, mais donc c'est difficile de se restreindre.
Ah oui, mais je bois très peu, donc du coup, ça
réduit. Ça compense peut-être. Et puis, mais tu habites chez tes parents, donc chez tes parents, c'est de l'eau qui vient de la commune, c'est pas de l'eau de pluie, c'est pas de l'eau. Parce que tu peux aussi faire un système de recyclage, demander à ton père de filtrer l'eau de la douche.
Non,
et
mais
puis...
je vais pas révolutionner la maison. Moi, je compte partir et pas. Non, non, non.
D'accord. Et à propos de. D'avenir, parce que bon, je sais que tu j'aime beaucoup cette démarche de ta part, c'est-à-dire que tu n'es pas pessimiste. Je veux dire, il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu dans cette idée de critiquer ou de voir les choses en noir. C'est pas moi non plus, je comprends ça. Les temps ne sont pas toujours faciles, loin de là, pour les jeunes. Mais comment est-ce que toi, tu vois ton avenir? Je parle pas forcément de l'avenir immédiat, mais si tu te projettes dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce que tu peux le faire?
Non, je sais pas. Je vois ce que je veux pas. Après, ce que je veux, c'est autre chose. Non, j'espère bien avoir un lieu de vie en lien quand même avec la nature, pas être au milieu d'une grande ville. J'espère avoir une activité professionnelle en lien avec, qui correspond à mes valeurs, mes idéaux quand même. Où j'ai pas envie d'être dans une grande usine à être dans un système. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà, je préfère faire quelque chose de plus, même si je gagne moins, et faire quelque chose qui m'importe plus, quoi. Où je sais que j'œuvre pour des choses qui ont de l'importance pour moi, et voilà.
Finalement, une partie de ton, on dit maintenant cœur de métier, mais bon, c'est un petit peu, quand on n'a pas encore beaucoup travaillé, c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais c'est quand même l'animation. J'ai l'impression que tu as toujours beaucoup pris de plaisir à encadrer des groupes, que ce soit, là tout à l'heure tu nous as parlé des handicapés, mais aussi des enfants.
Oui, ça c'est, pour moi c'est un vrai plaisir de pouvoir être en contact avec des gens, de faire... que ce soit des activités, des sorties, ou pas pour les choses elles-mêmes, mais rien que pour l'échange avec les gens, partager, apprendre. Et ce qui est génial, en fait, c'est que on n'est pas animateur face à un public, en fait, on est un être en face d'un autre être, et on partage des choses. Et moi, avec les personnes, ou même j'y travaille avec des personnes trisomiques, et enfin, on apprend tellement de choses, et leur regard sur le monde est si différent. Je sais pas, c'est une richesse, et on ne peut pas s'ennuyer dans ce métier-là. C'est ça que j'aime, je pense.
C'est assez rare ce que tu dis, parce que beaucoup de gens qui parlent justement... C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai un petit peu insisté sur ces gens qui sont handicapés, parce que très souvent, ou bien on entend des gens dire que c'est un monde qui ne les concerne pas, ou qui ne comprennent pas, ou un monde qu'ils ne peuvent pas atteindre, ou inversement, des gens qui sont très... Au contraire, tout en dans l'admiration, en disant « ces gens-là sont formidables ». Et en fait, tu arrives, toi, à trouver un équilibre.
Oui, parce que moi, je ne dis pas qu'ils sont formidables parce qu'ils sont en situation de handicap, je dis qu'ils sont super parce que c'est des gens par rapport à leur personnalité. Enfin, pour moi... Que je sois face à un enfant, une personne en situation de handicap, une personne âgée, pour moi, au bout de 5 minutes, j'oublie... Enfin, c'est compliqué à expliquer et à comprendre, je pense, mais face à un enfant, je n'ai pas l'impression de parler à un enfant, je parle à un être humain. Enfin, je le vois, évidemment, je fais attention parce qu'il est plus petit en termes de sécurité, etc. Mais,
heureusement.
Oui, bien sûr. Je ne sais pas comment expliquer. Souvent, les gens ont du mal à comprendre, mais la personne en situation de handicap, c'est pas le handicap qui va revenir en premier... dans notre relation, c'est la personne et ce qu'elle va dégager. Enfin, ça se passe comme ça.
C'est une démarche qui est honorable et qui devrait être plus répandue, à mon goût. Notre dernière petite intermède musicale avant de nous quitter. Retour sur Radio Graphite 94.9 avec notre invitée Lauriane pour la dernière et courte partie de cet entretien. Il y a un domaine que je n'ai pas encore abordé parce que je vois que ton engagement, il est à la fois personnel, il est professionnel. À mon avis, il y a une dimension qui serait cohérente avec le reste, mais je te laisse seul juge d'en décider, ou du moins de nous en parler. C'est celui de la politique. Est-ce que tu te vois avoir un engagement politique? Ce que je veux dire, c'est que il y a l'associatif, il y a l'individuel, l'associatif, et à un moment ou un autre, le politique qui permet parfois, selon les gens, selon ce qu'ils jugent, d'avoir une influence parfois plus grande, plus large sur la façon de vivre des gens.
Là maintenant, je dirais non. C'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse, même si je comprends bien et j'ai bien conscience de ça, que agir au niveau politique, ça permet de faire des choses, des actions un peu plus appuyées, ou ça permet de faire des actions plus grandes, je sais pas comment expliquer. Mais là maintenant, non, c'est pas du tout, j'ai pas du tout envie de m'engager politiquement.
Est-ce que tu t'y intéresses?
Très peu, parce que pour moi, la politique, c'est pas du tout un domaine. Pour moi, c'est pas très valorisant ce que je vais dire, mais les politiques, c'est. Enfin, j'ai pas. Voilà, je vois pas de façon valorisante.
Tu les mets tous dans le même sac?
Non, bien sûr, Bruno.
Je précise que je ne suis pas engagé dans la politique.
Non, mais pour moi, je dis pas que c'est impossible que plus tard je sois engagée dans la politique, ça c'est sûr, mais il faudra que ça soit dans la continuité d'un engagement, d'une volonté, d'une action, quoi.
Est-ce que tu vas voter?
Oui, ça oui, par contre.
Donc tu as forcément des options. Je ne te demande pas tes opinions politiques,
mais le vote n'a très peu de, après très peu de poids. Pour moi, c'est pas vraiment.
Il en a suffisamment pour que tu juges bon d'aller voter.
Oui, je le fais parce que voilà, mais pour moi, ça n'a pas de grande valeur.
C'est deux choses différentes. Je te parlais d'engagement, parce que avec ta démarche, ça paraît, je ne dis pas logique, mais ça pourrait paraître cohérent qu'à un moment ou à un autre, tu puisses avoir une action politique. Ce que je voulais dire, c'est qu'on peut y avoir un engagement, il peut y avoir simplement le souci citoyen d'aller voter pour désigner des gens qui sont censés te représenter. Donc c'est en ce sens que tu vas voter.
Oui, bien sûr, mais je n'ai pas l'impression vraiment que ce soit très représentatif de l'opinion des gens, mais bon, voilà, ça c'est mon opinion.
Très bien, là voilà. Un petit point qui n'est pas directement politique, mais par contre qui a un rapport avec le monde dit moderne. Je sais que tu vas me dire que pour l'instant ça n'a pas beaucoup d'importance, mais moi je trouve sympathique je ne sais pas si c'est un blog ou le site internet que tu as créé il y a déjà une paire d'années, qui s'appelle Picardie-moi tout. Le nom est sympa.
Oui, le nom est sympa, surtout qu'il a été choisi par des personnes de Picardie, des Picards.
Un travail collectif de Picards, c'est formidable.
Voilà, il y a eu un vote et tout pour choisir ce nom.
Ah, un vote.
Oui.
Une sorte de vote politique, quoi.
Non, alors c'était apolitique. On peut voter sans qu'il y ait de politique. Mais oui, en fait, c'est un site que j'avais créé à l'époque. C'était pour, je crois que c'était pour un projet universitaire. Il fallait faire un site. Et je me suis dit, autant passer du temps à faire un site, autant le faire pour quelque chose d'intéressant et qui serve à quelque chose. Donc j'avais l'idée de faire ce site pour collecter des informations, des initiatives, des projets, ou que ce soit associatif ou autre, sur la Picardie. Et donc de le diffuser. Et l'idée, c'était vraiment que ça soit un blog, participatif, où c'est moi qui l'ai démarré parce que c'est dans un projet universitaire, mais mon idée, c'était que ça soit les personnes qui l'alimentent, et qui est un petit groupe de 3, 4, voire plus de personnes qui contribuent, en fait.
Et c'est toujours le cas?
Eh ben non, parce que après, je me suis pas. Je l'ai créé, on l'a alimenté un peu, et puis il est tombé à l'eau. Il y a une petite relance, là, mais.
Oui, c'est difficile d'alimenter, parce qu'il faut que ce soit en continu, pratiquement.
Oui, et puis il faudrait vraiment. Une personne ou deux, c'est pas assez. Il faudrait vraiment qu'il y en ait plus. Des personnes qui disent, tiens, ça je connais, je vais les rajouter. Enfin. Voilà, moi je pense qu'il faudrait moins qu'il y ait 5-6 personnes, comme ça donne une dynamique Et puis on voit, il y a quelque chose qui a été rajouté, ça me fait penser à ça, moi je vais rajouter ça, et voilà.
De l'intérêt de passer sur Graphite 94.9, parce que si des gens qui nous écoutent souhaitent collaborer au site Picardie-Moitou, que vous pouvez découvrir, qui est très sympa, il y a une belle photo de, ça doit être du quartier Saint-Leu de Damien, d'après ce que j'ai vu, c'est très très sympathique, donc ils peuvent y aller. On va bientôt se quitter, Lauriane, ça va être un scoop aussi pour toi, parce que je ne t'avais pas encore parlé, mais l'autre jour j'ai discuté avec ton grand-père, Et il m'a dit que ça te fait sourire, mais il n'est pas tout jeune, ton grand-père, et il sait plein de choses, notamment dans le domaine. On a parlé forgeron, parce qu'on parlait de métier manuel. Et donc, il m'a dit que son premier métier, à l'origine, donc il doit remonter à quelques années, c'était d'être forgeron. Et donc, je voulais te demander, j'en profite, tu vois que nous sommes sur Graphite, en toute intimité, si tu avais déjà parlé avec lui de ça, parce que des fois, tu aimes bien bricoler. Il ne t'a jamais initié au métier de forgeron?
Non, malheureusement.
Tu savais qu'il travaillait le métal comme ça?
Oui, parce que je le vois bien bricoler dans son sous-sol, il nous crée des trucs, des outils.
Ouais, mais pas avec une forge, avec le charbon qui rougeoie et le soufflet. Donc voilà une piste, non pas de travail, mais de découverte d'un beau métier manuel qui reviendra peut-être. Je lui ai parlé justement, on aura l'occasion d'en parler à Graphite de la fameuse mode Castrale qui est en cours de reconstruction à Lassigny, où il y a justement un forgeron qui officie comme on le faisait au XIIe siècle. Je crois, c'est ce qu'ils ont fixé comme date. Voilà, donc c'est une piste pour toi. Tu vois, moi j'ai aussi des opportunités à te présenter. Bien, nous allons bientôt nous quitter. Je voulais simplement dire que grâce à Lauriane, nous avons pu constater que l'avenir n'est pas encore radieux, mais il est quand même un peu moins sombre. Le cas de Lauriane n'est heureusement pas unique. Des jeunes comme Lauriane sont nombreux en France. Leurs idées, leurs initiatives, leur enthousiasme permettent de tracer les pistes qui nous mèneront à cet avenir moins carboné, plus équitable et plus respectueux de l'environnement, qui est non seulement le souhait des plus engagés dans ce domaine, mais aussi vraisemblablement celui qui constitue le seul scénario viable pour notre petite biosphère. Alors cet avenir, construisons-le avec eux. Merci d'avoir suivi cette nouvelle édition d'Un Pas de Côté, diffusée sur Graphite 94.9 et sur le web. À bientôt sur Graphite avec Un Pas de Côté. Bruno et Lauriane au micro, Léo à la technique.